Assurance IARD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission consacrée entièrement à la santé des femmes. Priorité santé pour répondre à des questions pratiques en ouvrant notre micro à un spécialiste qui vous donne des conseils pour tenter de trouver des pistes, pour comprendre ce qui se passe et si possible aller mieux, une information santé qui tient compte de nos habitudes, de notre réalité. Et aujourd'hui, nous allons parler de nos emplois du temps, ce temps au cours de la journée, ces heures que l'on ne voit pas passer. Enchaîner les tâches, certaines obligations, les rendez-vous, s'occuper des autres, prévoir, vérifier que rien n'a été oublié, rien, sauf peut-être vous. Encore faut-il pouvoir s'arrêter pour s'en rendre compte. Encore faut-il se donner le droit de s'écouter, repérer certains signes de fragilité, de faiblesse, cette petite lumière qui s'allume et qui nous dit « on va trop loin, attention, épuisement ». À vouloir tout faire, à tout assumer de front, on finit par se consumer. Comprendre comment on en est arrivé là, essayer de voir ce qui peut s'améliorer et peut-être aussi surtout avec qui en parler. On vous donne la parole, c'est ce qu'on vous propose au cours de cette émission grâce aux témoignages que vous nous avez postés sur la page Facebook de Priorité Santé. On vous appelle, on vous écoute, vous, les auditrices de l'émission. S'exprimer, décrire son quotidien, ce sentiment parfois d'être débordé, submergé, ou au contraire, réussir à gérer, tirer satisfaction de cette capacité à faire face. En duplex du studio de RFI à Dakar, on vous retrouve, Mamadou Mbodj, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Et ravie d'être avec vous, vous êtes psychologue, psychothérapeute à Dakar au Sénégal, et c'est donc vous, Mamadou Mbodj, qui au cours de cette émission allez répondre aux questions de nos auditrices.
Notre santé, si on en parlait.
Y a-t-il une place pour l'épanouissement personnel dans l'emploi du temps des femmes ? Alors c'est une vaste question avec en toile de fond. Une idée apparue dans les années 80, au milieu des années 80 en Occident, on a entendu cette expression de charge mentale. Ça nous ramène aussi vers le concept de double journée qu'on pouvait entendre avant, c'est-à-dire le travail, le temps professionnel et puis le temps domestique. Quand on rentre, il y a les enfants, il y a la famille, il y a le ménage, il y a tout à faire encore. Bien sûr, en fonction des contextes, du milieu social, de l'endroit où on vit, les usages sont différents, les perceptions changent. Mais cette notion de surmenage au féminin, c'est quelque chose qui est pas vraiment propre à une région du monde. Même si, Madame Mbodj, on peut avoir des ressentis différents et aussi vraiment des façons différentes d'en parler.
Oui, surtout que le terme de surmenage ou de burn-out ou tout simplement de le fait d'être débordé n'est pas très usuel, si vous voulez, dans le langage ici. Même si la réalité que ça recouvre est visible, elle est palpable, on la voit. Et quand il m'arrive, dans le cadre des consultations, d'essayer de mettre des mots, on me fait comprendre que ce n'est pas tant la surcharge de travail, ce ne sont pas tant les occupations, ce ne sont pas tant les obligations, mais ce qui pose problème, c'est le défaut de contrepartie affective, relationnelle, c'est le manque d'échange, l'absence de quelqu'un à côté avec qui échanger sur ça, parce que dans le cas de la conjugalité, ces échanges-là servaient d'antidote un peu à l'épuisement.
C'est le sentiment, que s'il y avait une reconnaissance, davantage de reconnaissance et de partage, finalement, on va dire que ça ferait moins mal.
Ça ferait moins mal. Les femmes vous disent, c'est pas le travail, parce qu'elles sont habituées depuis le bas âge, qu'elles aient de l'aide ou pas, elles parviennent à tenir, mais c'est qu'à la fin de tout ça, il n'y a rien en face.
Est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression parfois qu'il y a une forme de légitimité à se faire entendre, notamment, et c'est ce qu'on a senti en interrogeant nos auditrices à cause de la pression familiale, parce que se plaindre, c'est quelque chose qui ne se fait pas.
Oui, si vous voulez, la société en a fait de ces femmes des sortes d'humanoïdes, c'est-à-dire a fait d'elles en elles-mêmes plusieurs femmes et plusieurs hommes à la fois, et elles n'ont pas le droit de se plaindre, comme si finalement le fait qu'une femme soit occupée 48 heures sur 24 était une chose naturelle et allait dans l'ordre normal des choses. Malheureusement, souvent, quand elles arrivent chez le psychologue ou chez le médecin, ben, les dégâts sont déjà faits. Parce qu'on ne les autorise pas dans le quotidien à se plaindre. On en a fait des gardiennes des traditions, mais aujourd'hui, on en fait aussi des initiatrices et des actrices des modernités. Mmh. Elles sont censées gérer les traditions, les codes, et elles sont censées gérer aussi tout ce qu'il faut mettre en place dans les mutations de notre société. Ça crée en tout cas un malaise. Et quand elles arrivent chez le psychologue ou chez le médecin, ben, les dégâts sont souvent là. Mais elles ont du mal encore à faire le lien entre le malaise, le mal-être qu'elles présentent et cette surcharge disponible pour l'époux, disponible pour la belle famille, disponible pour les belles-sœurs, disponible pour la belle-mère, disponible pour leur propre famille et disponible au travail.
On sent l'énorme pression. Justement, on va l'entendre tout de suite, parole de femme au pluriel. Et notre palabre au féminin, notre rendez-vous pour cadre, c'est la Maison des Femmes à l'entrée de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis au nord de Paris. Ce centre qui accueille des femmes victimes de violences ou en situation de vulnérabilité. Et des témoignages recueillis par notre reporter Charlie Dupio en marge d'ateliers, de groupes de parole, des femmes débordées. Hein. Oui, elles le reconnaissent sans hésiter. Autour de la table, il y a Bamba, 24 ans. On l'a déjà entendu dans une précédente émission Question de femmes. Il y a aussi Tatiana, elle a 36 ans, Jacqueline, 56 ans. Et c'est Jacqueline qui commence.
Dans mon pays, j'étais vraiment une femme très débordée. Je m'occupais de toute la famille. Et je me réveillais très tôt le matin, presque 4 heures, aller au marché et revenir, presque 0 heure ou 1 heure. Alors chaque jour, de travailler, de s'occuper des enfants, de chercher comment est-ce que les enfants vont vivre, vont manger, vont faire. J'étais très débordée, alors c'était vraiment très tendu. Parce que chaque fois, je manquais même de sommeil, je me somnolais dans les transports. Quand je pars à chercher les marchandises, c'est pas facile.
Moi, je suis d'origine camerounaise. Je peux dire, moi, j'étais très, très débordée avant, dans mon ancien foyer. Enfin, je me débrouillais seule à la maison, puisque je n'avais pas le choix. J'avais personne qui va venir m'aider pour amener les enfants à l'école.
Ta mère t'a dit, elle a fait pareil. Bon, du coup, quand tu essayes de dire, bon, moi, je suis fatiguée, je vais faire ceci, je vais faire ça, on te dit, toi, tu es paresseux. Tu ne veux rien faire. Tu ne veux rien. Beaucoup, la famille, maman, ton papa.
Même la famille de ton mari, même tes amis. Tu es incapable de travailler. Hein? Incapable de travailler.
Comme je vais aller prendre une deuxième femme pour mon fils. Comme toi, tu n'arrives pas à faire ce qu'une femme doit faire.
Moi, je me dis, au temps de nos grands-mères, je me dis que nos grands-pères avant avaient les 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes là. Et ils s'asseyaient comme ça, ils ne faisaient rien. Ce sont ces femmes qui partaient faire les champs, travailler pour apporter à la maison. Je ne pense plus qu'on peut vivre de la sorte, comme à l'époque.
Jacqueline, vous avez l'air de dire que vos journées commençaient très tôt le matin. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être une journée?
Chez nous, donc c'est la femme qui se réveille avant toute la maison. Dès que vous vous réveillez, vous préparez ce que vous pouvez laisser pour les enfants. Après, vous sortez pour aller chercher qu'est-ce que vous devez vendre au marché.
Vous aviez un stand sur le marché?
Oui.
Un étal?
Oui, oui. Après avoir acheté les marchandises, vous revenez maintenant au marché. Vous commencez avant, dès que vous terminez, vous emballez les histoires, vous mettez dans les dépôts et vous rentrez à la maison. Dès que vous arrivez à la maison, vous commencez d'abord à ranger la maison, préparer la nourriture.
Problème de l'eau, tu vas aller piger l'eau.
Tu pars chercher de l'eau et tu fais tout. Si les habits sont sales, tu sors les habits pour commencer à laver dans la main. Tout, c'est le travail d'une femme.
Moi aussi, je me rappelle parfois quand j'ai fini de faire la cuisine et tout, c'est à partir de 22h quand les enfants sont couchés que je commence à faire le repassage. Je commençais à faire le repassage la nuit jusqu'à peut-être même 1h, 2h si j'ai fini, puis je dors. Et à 5h, il faut se réveiller pour apprêter les enfants pour amener à l'école. Moi, je faisais le commerce devant la maison. Je faisais ça le bissap, les jus naturels, quoi. Je faisais les jus naturels. C'est ça que je vendais. Quand j'avais le bébé à main, il fallait m'occuper du bébé. Soit je mets le bébé au dos, préparer, faire les travaux ménagers.
C'est la répétition de chaque jour. Chaque jour du 1er au janvier
et du 31 décembre, des années, vous êtes en train toujours de faire ça. Et moi, j'ai travaillé fortement. J'ai travaillé fortement. Et j'ai gagné aussi de l'argent. J'ai gagné aussi de l'argent. Parce qu'il y a toute une charge derrière toi. Même si je suis malade, et je ne peux pas rester au lit et se reposer. Non, non, non. Je sors, je pars aller travailler. Je suis toujours debout. Tout ce qui se passe, ça commence d'abord dans la tête et ça termine toujours là-bas. Tout ce que tu dois faire. C'est pour cela que vous voyez qu'on est vraiment chargé mentalement. C'est pour cela. Parce que tu es en train toujours de penser comment est-ce que tu vas faire.
Tu analyses tout.
Tu as le planning dans la tête. Tu as tout dans la tête. Mais nous sommes des Congo RDC. Nos hommes sont des rois. Nos hommes ne travaillent pas. Il peut se réveiller comme ça. Tout ce qui est les tâches ménagères, c'est pour la femme. Ce n'est pas pour lui. On est éduqué comme ça.
Pas tous les hommes. Il y a certains hommes qui aident les femmes à la maison.
Moi, mon mari, en tout cas, il me comprend. Il m'aide à faire tout. Ce qu'elle a vécu, elle a vécu. Moi, je n'ai pas vécu pareil. Mon copain, il était déjà ici. Du coup, je suis venue le jeune ici.
Vous partagez bien les tâches ménagères avec lui, alors?
Non, souvent, quand je suis fatiguée, il me dit, couche-toi, je fais. Il prépare. Oh, il me dit, aujourd'hui. Il prépare bien, il fait sauce arachide. Il prépare très bien. Souvent, il essuie la maison, il arrange le lit. Souvent, quand je suis couchée, il ne me réveille pas.
C'est très, très bon, mari.
Moi, par exemple, si je n'ai pas eu la chance de trouver un homme qui va m'aider à la maison, fait tout et tout pour m'aider. Un homme comme ça, ce n'est pas tout le monde, en fait.
Parole recueillie par Charlie Dupiot à la Maison des Femmes de Saint-Denis. On remercie toute l'équipe pour son accueil. Toujours avec nous dans le studio RFI Dakar, Mamadou Mbodj, psychologue. J'imagine que vous avez suivi tout ça de très près, ce témoignage dans Priorité Santé. Votre réaction, on sent bien la différence entre les générations.
Oui, maintenant le problème c'est que les femmes veulent vivre aujourd'hui dans des conditions totalement différentes, des types d'implication dans tous les secteurs d'activité de la vie, avec les problèmes de distance, les problèmes de transport, les responsabilités nouvelles au niveau de la maison où elles sont plus, ce ne sont plus les familles élargies mais des familles nucléaires, et elles veulent en même temps avoir les mêmes disponibilités que les grands-mères ou les mères de l'époque. Je veux dire que il faudrait que les femmes comprennent que les traditions ne sont pas des données immuables. Les codes anciens ne sont pas des données immuables. C'est des données, des codes, des habitudes, des manières de faire qui sont censées évoluer en fonction des gens, en fonction des besoins nouveaux.
Oui, mais Mamadou Mbodj, vous ne pouvez pas nier le fait qu'il y a une pression familiale sur ces femmes. Et sans arrêt, on leur dit, il faut être à la hauteur, il faut être à la hauteur. Donc c'est bien de dire aux femmes, ne vous remplissez pas trop la barque, mais en même temps, il faudrait que le reste de la famille les laisse un petit peu tranquilles.
Oui, mais ce n'est pas le reste de la famille qui va les laisser tranquilles. C'est la détermination de ces femmes.
On comprend.
À résister, parce que dans le besoin d'accomplissement, la capacité de résister aux pressions de l'environnement socio-familial est un des éléments majeurs. Et quand ces femmes parviendront à commencer à résister, ben, vous verrez que les autres reculeront. Je veux dire que l'évolution ne viendra pas du mari, ne viendra pas de la mère, ne viendra pas de la belle-mère. Il faut que ces femmes commencent à parler. Il faut que ces femmes commencent à taper sur la table. Il faut que ces femmes commencent à dire qu'elles n'en peuvent plus.
C'est bien ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage de Charlie Dupiot. On va se retrouver, petite pause en musique avant de poursuivre notre échange. Bien sûr, de vous donner la parole à vous, auditrices. Et c'est vous qui faites la programmation. Dans quelques minutes, on va ouvrir le micro à Odom qui vit à Dakar. Et elle est très attachée à ses rythmes de son Gabon natal. Ce choix d'Odom, c'est cette chanson d'Olivier Ngoma, Mukwili.
diambwe. Auti kambini ayamye.
Olivier Ngoma dans Priorité Santé, ce titre, il a une résonance très particulière pour vous. Odom, bonjour.
Bonjour Caroline.
Ce choix musical, alors il est lié à votre situation personnelle, dites-nous pourquoi.
Absolument, en fait, c'est un clin d'œil que je fais aux femmes veuves. Olivier Ngoma, ce titre c'est Mukuli, c'est dans une langue du Gabon. Et donc il rend hommage à ces femmes qui sont souvent spoliées lorsqu'elles perdent leur mari, souvent de la part de la belle-mère. Et donc, je trouvais assez intéressant cette résonance parce que moi aussi, je suis une femme veuve, en fait. J'ai perdu mon mari il y a 10 ans, j'avais 30 ans. Et donc, à partir de ce moment-là, la question de la charge mentale s'est présentée à moi. C'est seulement il y a à peine 2 ans que j'ai commencé à mettre des mots là-dessus parce que en lisant les expériences d'autres femmes à travers les plateformes digitales, j'ai su alors que ce que je vivais n'était pas absolument dérisoire et qu'en fait, c'était une réalité commune à plusieurs femmes. Et donc voilà, c'est pourquoi je voulais rendre hommage à ces femmes-là à travers cette chanson-là.
On perçoit bien qu'il y a une réalité, votre quotidien, et un certain temps, il faut que ça mûrisse avant que ça vous vienne à l'esprit de comprendre que parfois, Odom, ce que vous vivez, eh bien, c'est un petit peu trop. Racontez-nous justement comment ça se répartit dans votre journée, comment vous faites face.
Alors, je me définis déjà comme une chef de famille monoparentale, en fait, comme je le disais à l'issue du décès de mon mari. Quotidiennement, c'est pas toujours évident, il faut le dire. D'abord, j'ai appris à déconstruire le prototype de la femme forte que l'on nous impose à travers les injonctions sociales et sociétales. Et j'ai aussi appris à m'organiser, en fait, parce que au quotidien, ce n'est vraiment pas du tout évident. Je dois m'occuper de ma fille, aller au travail, parce que je suis enseignante chercheur à l'Université française de Dakar. Et ça aussi son temps, c'est une organisation. Au niveau du travail, par exemple, j'ai appris à m'en tenir aux heures statutaires, donc 6 heures hebdomadaires, et ne pas prendre, par exemple, des heures complémentaires qui m'empêcheraient d'honorer d'autres rendez-vous. Je tiens au quotidien à dédier, à consacrer au moins une heure de 24 heures à moi seule. Et donc, pendant ce temps, je fais du sport. Et le matin, par exemple, je me réveille à 6 heures tous les jours, de lundi à vendredi. J'accompagne ma fille. On sort de la maison à partir de 6h45. On s'en va à pied au lycée où elle étudie. Puis, à partir de ce moment-là, je commence le sport. Et après l'heure de sport, je reviens à la maison et je peux entamer ma journée. Je vais à l'université faire des cours. J'ai aussi appris à déléguer, par exemple, lorsque je ne peux pas. Je loue les services d'une nounou qui va la chercher parce que je ne peux pas aller la chercher à l'école. Et 3 fois par semaine, il y a une dame qui vient faire le ménage chez moi. Ça me permet aussi d'être un peu libérée de ces tâches-là.
Odom, si vous faites tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, vous êtes arrivée à une fatigue où vous vous êtes dite, là, j'en peux plus, il faut que je me réorganise.
Je pense qu'à un moment donné, ça s'impose à nous, en fait. On se rend compte qu'humainement, on ne peut pas tout faire. Et à partir du moment où on ne peut pas tout faire, on apprend à déléguer progressivement. On apprend à savoir qu'on n'est pas surhumaine et qu'on peut ne pas tout faire. Psychologiquement aussi, ça a un impact sur le plan de la santé parce qu'on est souvent fatigué, on est souvent épuisé physiquement et on se rend bien compte qu'en embrassant tout, on ne peut pas tout bien faire et c'est à partir de ce moment qu'évidemment, s'impose à nous la volonté de mieux nous organiser pour ne pas lâcher prise. Voilà.
Et justement, face à votre détermination, vous essuyez des critiques, des commentaires, des pressions. La famille, par exemple, elle voit tout ça comment ?
Alors, je peux dire que le fait que je vive au Sénégal, c'est-à-dire dans un pays africain, certes, mais qui n'est pas mon pays d'origine, me protège, en guillemets, de certaines critiques qui auraient peut-être pu peser sur moi. Lorsque je suis ici, le fait que je ne sois pas sénégalaise m'empêche quand même de vivre directement la pression sociale. Par exemple, lorsque je vais au Gabon, il y a des questions qui reviennent comme « tu refais ta vie quand ?» Ce sont des questions très présentes, en fait, et très... Voilà, parce que on ne s'occupe que du rôle, en fait, que l'on veut vous attribuer, le rôle de la femme qui doit toujours être l'épouse pour être accomplie socialement. Or, cette question, à mon niveau, est appréciée différemment parce que à partir du moment où on perd son mari très jeune, à 30 ans, on n'a pas forcément envie de, en guillemets, refaire, d'ailleurs on ne refait jamais sa vie, on continue parce qu'on est la somme de nos expériences. Mm-hmm. Donc à partir du moment où on perd son mari, on a une autre organisation de la vie en fait, parce qu'on tient compte quand même de la santé et de la psychologie et de la présence de cet enfant qui est là et qui doit aussi avoir sa place et puis aussi d'être prête émotionnellement pour commencer peut-être à penser à refaire sa vie. J'étais en Espagne lorsque j'ai perdu mon mari. J'ai déménagé de pays, je suis allée au Gabon et je suis revenue en Espagne et je suis actuellement au Sénégal. Donc toutes ces mobilités ont quand même un impact dans la vie et même dans l'organisation.
Tout à l'heure, Mamadou Mbodj disait prendre les commandes en quelque sorte. Mamadou Mbodj, on entend vraiment avec Odom qu'elle a réfléchi à la situation, elle a pris des décisions.
Oui, elle a compris, elle a pris des décisions. Elle a fait un travail de déconditionnement. Il y a eu un travail de déconstruction qu'elle a fait, elle l'explique très bien. Il y a eu de la reconstruction qu'elle a faite aussi. Il y a eu un travail de réaménagement, elle a pris du temps. Elle apprend à prendre du temps et elle manifeste le souci de son bien-être qui est le point de départ. Mmh. Or, on a souvent tendance à mettre les obligations et les charges comme la priorité alors que c'est d'abord son bien-être et c'est parce qu'on s'intéresse à ce bien-être-là qu'on comprend aussi que le fait de prendre en charge les autres se fera peut-être d'une autre manière.
C'est un peu l'expression qu'on entend, les femmes qui s'oublient trop souvent.
Absolument. Et j'avoue que je suis heureux d'entendre le témoignage d'Odom. Si ça pouvait être entendu par beaucoup de femmes dans des situations pareilles, elles verraient qu'elles ont le choix. Il arrive un moment où on a le choix et il faut se donner ce choix. Parce que si les choses doivent changer aujourd'hui, ce n'est pas le reste de la société qui va amorcer ces changements. Ce ne sont pas les hommes qui vont amorcer ces changements. Ce sont les femmes qui en souffrent le plus qui vont amorcer ces changements.
Et on remercie vraiment Odom pour ce témoignage qui était très fort. Alors, où est-ce qu'on en est dans l'organisation, le travail, la famille, la vie affective? Course contre la montre chaque jour ou à l'inverse, ça va plutôt bien. On continue de vous donner la parole.
RFI à Abidjan. 97.6 FM.
Et à votre écoute, notre invité dans les studios de RFI Dakar, Mamadou Mbodj, psychologue, psychothérapeute à Dakar, en ligne avec nous, autre auditrice, Christelle, bonjour.
Bonjour.
On écoute votre histoire. Pour vous, vous vous sentez vraiment ce surmenage, hein ?
Ah oui, totalement. Alors, j'ai 30 ans, maman de deux enfants, de 3 et 7 ans. Donc, faut dire que j'ai eu ma première fille quand j'avais 23 ans. Donc, je devais concilier études et ma nouvelle vie de maman. Mmh. Et en même temps, essayer de garder un semblant de vie sociale. Mais c'était pas facile. C'était pas facile parce que, bon, j'avais cette pression. On me disait, oui, bon, si tu veux être maman et aller à l'école, il va falloir que tu t'organises. Mais sauf que quand je m'organise, j'ai pas forcément le temps de m'occuper de moi. Donc, à un moment donné, j'avais cette pression des parents, du papa, et moi-même je me mettais une certaine pression qui faisait que je m'en sortais pas. Ensuite il y a eu les parents qui me disaient, écoute, si tu ne peux pas assumer, ben fallait pas le faire. Mm-hmm. Si tu peux pas et être maman et t'occuper de ta maison et aller à l'école, c'est de ta faute.
Donc, est-ce que ça veut dire que c'était cette fatigue qui était finalement la plus pénible à supporter ou le manque d'empathie, de compréhension de votre entourage ?
C'était les deux. Qu'en fait, c'est comme si je n'avais pas le droit de me plaindre. Parce que bon, j'avoue que j'ai assez d'aide, j'ai une nounou. À l'époque, je n'avais pas encore de chauffeur, mais maintenant j'en ai un. Mais je ne pouvais pas me plaindre parce qu'on me dit, mais tu as tout à ta disposition. Mm-hmm. Et tu te plains, tu es fatiguée. Et on me dit, mais tu n'as qu'à t'organiser, tu n'as qu'à dire ce qu'il faut faire. Sauf qu'il faut toujours superviser parce que bon, les nounous, surtout dans nos pays africains, elles sont illettrées. Donc il faut toujours être derrière elles pour surveiller, anticiper, planifier la journée. C'est-à-dire que quand je me couche et quand je me réveille, je ne fais que planifier les journées, savoir qui va faire quoi, comment, et tout repose sur moi.
Et vous avez quelqu'un qui en parlait, par exemple, des amis qui partageraient le même genre d'expérience ?
Non, parce que je pense que c'est assez tabou. Parce que bon, déjà, la femme, pour nous, dans nos sociétés, elle est censée savoir tout faire, et toute seule.
Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre, en gros ?
Non, on n'a pas le droit de se plaindre. Et si on se plaint, ça veut dire, mais comment nous, nos grands-mères, nos mamans, on fait pour qu'elles y arrivent ? Je dis oui, mais en même temps, les mamans, les grands-mères, à un moment donné, je pense qu'elles ont sacrifié leur vie pour le bien-être de leur foyer, leur mari et leurs enfants.
Et malgré cette situation, ça ne vous rend pas agressive? Vous n'avez pas de sentiment de colère? C'est quoi le sentiment chez vous qui domine alors?
Alors, je suis très irritable. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou le manque d'empathie, le manque de soutien. Il me suffit qu'on me fasse une remarque pour que je pars au quart de tour. Et je me rends compte qu'en fait, ça me fait du mal. Et ça peut faire du mal aussi à mes enfants, alors qu'elles n'ont rien demandé. Des fois, je suis tellement fatiguée que quand elles me parlent, ça m'irrite. Et on ne me comprend pas, on me dit, mais tu n'as qu'à dire à la nounou de venir les chercher. Mais oui, mais si j'avais fait des enfants pour les laisser avec la nounou, ce n'était pas ça le but. Sauf qu'il n'y a personne qui m'aide. Hier, par exemple, c'est un exemple bien concret, je pensais à l'émission d'aujourd'hui parce que ça résonnait dans ma tête. Mon compagnon me disait, mais moi, je changerais ta vie pour tout. C'est-à-dire, si tu me dis aujourd'hui que je n'ai plus à aller au travail et que je dois juste m'occuper des enfants, m'occuper de la maison, on échange nos rôles, mais totalement, et tu as un chauffeur, tu as une nounou, tu as tout ce que tu veux, je ne vois pas pourquoi tu te plains. Je dis, mais je suis fatiguée. Et je demandais un week-end sans les enfants, on me dit, mais pourquoi donc, quoi, tes enfants te fatiguent? Tu n'as pas le droit de dire que tes enfants te fatiguent.
Mamadou Mbodge, c'est bien ce qu'on entendait tout à l'heure. On remercie infiniment Christelle pour ce témoignage, parce que c'est vraiment ce qu'on entend. C'est-à-dire que c'est autant l'absence d'écoute, de partage, de compréhension qui est compliquée que la situation en elle-même.
Oui, et là, comme elle dit, il y a en plus la culpabilité, il y a la solitude, il y a son irritabilité, mais il y a surtout qu'elle croule sous le poids des pressions sociales. Et malheureusement, elle aurait dû prendre au mot son mari en lui disant, écoute, pour 48 heures,
vas-y,
on change.
Prends ma place,
Et le mari aurait vu.
On avait eu des auditeurs, d'accord, c'était intéressant, pendant le confinement, qui s'étaient retrouvés coincés à la maison avec leur femme. Et là, qui avait dit, je vois vraiment ce que tu vis. Ben, finalement, j'ai hâte de retourner au travail.
Absolument. Alors là, ce qui est extraordinaire et qui est la seule chose que les gens voient, c'est qu'elle est dans des conditions de vie quand même relativement confortables, mais elle n'a aucun moment pour elle, pour pouvoir jouir de ces conditions de vie, pouvoir ressentir un tant soit peu de bien-être. Et ça, je veux dire que si elle n'effectue pas des remaniements, tapant sur la table, discutant avec le mari, personne ne pourra comprendre. Parce que tout le monde trouvera que vraiment, ou c'est une femme trop gâtée, ou c'est une femme qui évalue mal la chance qu'elle a, etc. Alors que tous ces biens, tous ces aménagements, tout ce confort matériel, elle n'en jouit pas parce qu'elle n'a pas le temps. Elle se sent en plus culpabilisée par la famille.
Donc avec cette irritabilité, ça veut dire qu'il y a vraiment des ajustements, des choses à faire pour changer la situation.
Elle gagnerait, je pense, à aller voir quelqu'un avec qui en parler parfois, ça ne sera pas long, juste pour pouvoir avoir quelques outils afin de voir comment inverser la tendance, comment commencer à discuter avec le mari, parce que les hommes, eux, au siècle prochain, pareil, ils resteront arc-boutés à leurs avantages, à leurs privilèges. Il y en a qui ont compris mais qui ne veulent pas renoncer, et d'autres qui sont complètement aliénés et qui, je veux dire, ne peuvent pas comprendre.
Il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux pour le comprendre, parce qu'on voit les commentaires, tous les gens disent « ne changeons rien, ne changeons rien, tout va bien en tout cas
».
Les femmes sont là pour dire qu'il y a quand même quelques petites choses vraiment, vraiment, vraiment à changer. Question de femmes, organisées, débordées, zen, stressées. Un autre témoignage tout de suite.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Et en ligne du Congo, c'est vous, Jelika, bonjour.
Bonjour.
Alors vous aussi, une grande tribu, une grande famille. Racontez-nous comment ça se passe à Brazzaville.
Alors moi, je suis bien mère célibataire de 4 enfants, enfin disons 5 et demi, parce que j'ai ma nièce de 21 ans et mes 4 garçons de 9, 8, 6 et 2 ans et demi. Et une petite chienne. Ça fait un gros monde à la maison parce que ma chienne attend des petits, donc c'est sûr qu'on sera au moins 10. Et donc... Je suis une maman, je peux dire, assez organisée parce que je voulais pas dire que je suis un peu militaire, mais les matins chez moi, comme j'ai une ménagère, donc je laisse toutes les instructions. J'ai déjà un tableau planning, donc on sait ce qu'on doit faire lundi, mardi jusqu'à samedi. Donc elle suit les directives et tout est déjà dans le congélateur, tout est déjà prêt. Et, donc je vais au bureau et dans les jours de la semaine, les enfants ont le transport les après-midi. Donc, soit c'est ma nièce qui les dépose et moi, quand je finis, en fin de journée, je vais les chercher. Donc, je m'arrange à ce que je sois toujours présente pour les enfants à chaque moment de leur vie, que ça soit à l'école, après l'école, les activités sportives, le cinéma, même à la salle de cinéma, on sait là où on s'assoit parce que nous sommes des habitués. Mmh. Donc, voilà, je fais tout avec eux, on a nos rituels scellés, vraiment, je participe vraiment à leur vie et je ne veux pas manquer chaque épisode de leur vie.
Alors, on entend, c'est très cadré tout ça. Est-ce que malgré tout, vous y retrouvez, vous sentez épanoui, parce que ça roule, on va dire, on a compris, hein, vous avez fait en sorte que l'organisation soit quasiment parfaite. Est-ce qu'il y a des moments où il y a un petit grain de sable dans le rouage et ça bloque, ou est-ce qu'il y a des moments quand même où vous dites « et moi dans tout ça ?»
Non, je ne me pose plus trop cette question, mais je me sens un peu agressée par l'agence masculine parce que j'ai choisi de rester célibataire d'abord pour m'occuper d'abord de moi, de me reconcentrer sur moi, vu la séparation que j'ai eue avec le père de mes enfants. Donc, j'ai voulu me recadrer sur moi, donc m'occuper de moi d'abord, ensuite de mes enfants, vraiment une concentration exclusive sur moi. Et le reste, c'est après. Et vraiment, j'aime ce que je vis, j'aime ce que je fais. Comme je m'ennuie très souvent, donc je fais en sorte de beaucoup m'occuper. Donc après le boulot, je peux faire ma couture, mes cours de couture. Et quand je rentre à la maison, même si on dit que je suis fatiguée, c'est que je prenne une petite douche et c'est terminé. Là, je suis requinquée. Je peux faire mes liqueurs arrangées, la couture, coudre des habits, discuter. Je fais en sorte de ne pas m'ennuyer parce que je suis hyper active. Et à un moment, ça commence à faire peur.
Vous dormez, bien, Jelika ? Vous dormez bien ?
Non, je ne dors pas assez. Mon maximum d'heures de sommeil, c'est maxi 2h30, 3h.
Par nuit. Deux heures et demie en continu par nuit, c'est pas beaucoup, hein?
Ah non, c'est pas beaucoup.
Non, c'est pas beaucoup. Quand je dis ça, c'est vraiment un euphémisme. Ça veut dire que c'est pas suffisant du tout, 2h30. Comment vous faites pour tenir pendant la journée?
Je tiens. En fait, moi, mon truc, c'est qu'il faut que je m'épuise. Il faut que je me sente bien épuisée pour que je dorme et pour que je mérite au moins 3h de sommeil.
Pourquoi, Jelika? Parce que si vous n'êtes pas épuisée, vous pensez trop? Pourquoi?
Je sais pas. En fait, je réfléchis beaucoup. Je suis toujours là à organiser, à trouver qu'est-ce qu'il faut faire la semaine prochaine, faire mon planning de la popote de janvier à décembre. Je fais en sorte d'être trop, de beaucoup m'occuper pour que je m'épuise. Même si je fais le sport au bout d'une heure et que je suis fatiguée, au bout de 30 minutes après une douche, c'est bon. Je suis en forme et c'est parti jusqu'au matin.
Mamadou
Mbodj. Je me force parfois de dormir.
Pardon, Mamadou Mbodj, est-ce que vous avez envie de dire à Jelika de ralentir un petit peu ou vous considérez que son rythme, ça va?
Non, et c'est un rythme qui ne tiendra pas longtemps. Parce que je vois un ensemble d'obligations. Elle est tout le temps dans l'activité. Et j'ai envie de dire que la mère est là. L'individu est là, mais je me demande où est la femme derrière tout ça. Parce que vous êtes en train, en tant que mère, de faire de vos enfants de futurs citoyens. Hein. Vous les responsabilisez, vous vous occupez d'eux, vous êtes présente. Vous n'arrêtez pas, comme si finalement le fait de devoir arrêter vous faisait peur parce que ça allait vous renvoyer à vous. Parce qu'il y a des choses qui manquent. Et il est peut-être temps de vous dire que le meilleur moyen de continuer à agir de manière peut-être plus efficace et plus épanouissante pour vous, serait aussi de penser à vous, votre bien-être.
Jelika, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, mais c'est ce que je fais. Et je m'occupe tellement bien de moi que ça dérange certains hommes. Ils se disent, mais attends, occupe-toi aussi de nous. Non, mais je suis tellement épanouie. Je sors avec des copines, on va au ciné. En tout cas, je me fais du bien. Alors, je me fais tellement du bien que c'est ce que je dis. Ça énerve les hommes parce qu'ils se disent que bon, elle n'aura pas de temps pour nous.
On comprend votre désir d'indépendance, mais peut-être aussi votre corps à écouter. Ces 2h30 de sommeil, ça ne suffit pas.
Ouais, je peux somnoler 10 minutes. De temps en temps, ça peut aller.
Voilà. Vous me faites peur, Jelika. Si j'étais comme vous, là, je serais au bout du rouleau, hein.
Ah non, c'est comme ça tous les jours. Hein. Non, je peux avoir un petit coup de pompe autour de 9h, je peux peut-être somnoler un peu, et puis c'est reparti, je vais travailler. Ah, parce que si je m'ennuie, ça va m'énerver, donc il faut que je bosse.
Mamadou Mbodj, je suis sûre que vous allez réagir.
D'où j'écris des romans, oui, d'où j'écris des articles.
Je suis d'accord, voilà. Madame, mais ce service continu ne pourra pas continuer en permanence. Faites très attention, je ne veux pas vous faire peur, mais je pense que vous êtes en service continu. Vous n'arrêtez pas. Vous voyez des amis, vous vous occupez à la maison, vous vous occupez des enfants, mais j'ai l'impression que tout ça, c'est pour ne pas être renvoyé à vous. Vous pouvez penser à vous, vous occuper, essayer de penser à votre bien-être ne veut pas forcément dire céder aux hommes, ni penser aux hommes, ni introduire un homme dans votre vie. Mais il est peut-être temps d'arrêter et de ne pas avoir peur, justement, de l'ennui, de ne pas avoir peur de n'avoir rien à faire.
On dit souvent,
c'est mieux de n'avoir rien à faire qui me dérange. Oui, je n'aime pas rester à ne rien faire.
Mais justement, posez-vous la question de savoir pourquoi. Pourquoi vous êtes obligé d'avoir tout le temps quelque chose à faire, comme si vous n'en faisiez pas assez. Vous me diriez que vous vivez seul, que vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de travail, etc. Je pourrais comprendre. Mais vous n'arrêtez pas. Vous pouvez quand même penser, vous autoriser à rester des moments sans rien faire et peut-être envisager.
C'est ce que je fais de temps en temps au milieu de la nuit quand j'ai mes insomnies habituelles. Ben, je tourne autour, je regarde, je me dis bon, il n'y a pas à faire. Je réfléchis au prochain scénario de mon prochain roman. Des petites choses comme ça, je m'occupe de... Ou encore, je pense à quand est-ce que j'irai à la piscine.
C'est pas forcément évident parce que apprendre à ne rien faire, ça s'apprend aussi. Des fois, on est tellement habitué à être en roue continue comme un hamster dans une cage. Il faut apprendre à faire une pause. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on comprend au travers des conseils bienveillants de Mamadou Mbodj. On vous remercie beaucoup, Jelika. Et très certainement à une prochaine fois dans Priorité Santé. On va donner la parole à une autre auditrice. C'est cette fois à Conakry, en Guinée. C'est Makalé qui est avec nous. Makalé, bonjour.
Bonjour, madame.
On vous écoute, Makalé, racontez-nous de quoi est fait votre quotidien. Vous, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de fatigué par cette vie très intense ou ça va plutôt l'organisation?
Bon, à vrai dire, le quotidien est dur parce que je me lève à 5 heures du matin pour faire les travaux ménagères. De l'autre côté, il y a deux enfants à encadrer. Et à part tout ça, là, j'ai du mal encore à aller au travail. Je me lève, je fais les travaux ménagères, je prends soin des enfants, je me rends au lieu de mon travail. À mon retour, il me faut préparer, partir chercher les enfants à l'école, les encadrer encore jusqu'au soir. Deux fois jusqu'à 22h, je ne dors pas.
Le travail, la vie domestique, vous avez du temps pour vous? Rien du tout?
Rien.
Et avant, il y avait des choses que vous aimiez faire, des loisirs, des distractions, c'était
quoi?
Oui. Par exemple?
Avant, quand je n'avais pas donné naissance à mes deux enfants, j'aimais me promener, aller dans des lieux de culte pour me récréer au moins un peu. Sortir avec des amis.
Vous en parlez tout ça avec votre mari? Qu'est-ce qu'il en pense?
Oui, j'en parle deux fois, mais rare. Si on a des discussions pareilles, rare.
C'est rare, il vous répond quoi?
Bon, des fois, il me dit que ça, ce ne serait pas possible de prendre le courage que ça va aller. Après tout ça, là, on pourra sortir.
Et vous vous sentez mal, excusez-moi de poser cette question, je n'ai pas du tout envie de remuer le couteau dans la plaie, mais ça veut dire que des fois, quand vous venez en discuter avec votre époux, c'est parce que vous êtes dans une situation de détresse, vous n'en pouvez plus?
Oui.
Et il vous dit quoi? Courage?
Oui, il m'encourage.
Et vous en pensez quoi? Vous ressentez quoi quand il vous dit ça?
Je pense qu'il se met un peu à ma place parce que là, si il m'encourage, c'est parce que il voit quand même.
Il vous encourage, mais est-ce qu'il vous propose de l'aide?
Bon, de temps à autre. De temps à autre.
Et vous aimeriez qu'il vous aide?
Oui.
Qu'il fasse quoi, par exemple?
Comme s'il n'est pas au travail, au moins qu'il s'occupe des enfants.
S'occupe un peu des enfants.
Oui.
Et là, vous pourriez prendre une ou deux heures pour vous, aller vous promener, aller peut-être, je ne sais pas, si vous allez à la mosquée ou dans un autre édifice religieux, aller vous ressourcer un petit peu, parler à une amie?
À une amie, ou bien rendre visite à ma famille au moins.
C'est quelque chose qui vous manque?
Oui, beaucoup même.
Mamadou Mbodj, là, Makalé, elle a demandé de l'aide, elle a discuté avec son époux. On ne juge personne, mais a priori, jusqu'à présent, elle n'est pas entendue. Même si son mari est là pour l'encourager, il est là quand même à ses côtés, mais ça ne passe pas. Le partage n'est pas là. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Parce que tout simplement, le mari, ça ne lui coûte pas grand-chose d'encourager. Mais il ne bouge pas pour autant. Il ne change rien pour autant, il ne s'implique pas pour autant. Et l'inconvénient, c'est que quand les femmes, après avoir essayé vainement de parler et que le bonhomme ne bouge pas, quand elles se croisent les bras et laissent faire, c'est comme si elles disaient au mari qu'elles avaient plus besoin de lui que lui n'avait besoin d'elles. Mmh. Et quand ça s'installe, cet état d'esprit s'installe dans un couple, ce couple ne peut pas avancer.
Oui, mais là où c'est dommage, c'est que des fois, certains hommes disent oh, « je ne m'en suis pas rendu compte, je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais pas ce qui souffrait, que tu souffrais, et pourtant, l'épouse, elle est là, elle est épuisée, elle pleure sous ses yeux, elle lui dit « aide-moi », et lui, il dit « courage ».
Oui, mais il s'agit, en fait, c'est un mot qu'il faut bannir de leur, c'est une demande qu'il faut bannir de leur vocabulaire. Il s'agit plus de demander d'aider.
Il faut vouloir.
Si je veux que tu participes, chérie, aux tâches de la maison.
Ça veut dire, voilà, là je vais sortir, je vais aller voir une amie parce que j'en ai réellement besoin, les enfants sont là, à la limite le repas est là, je vous laisse et j'y vais.
Voilà, mais demander de l'aide, je veux dire ne plus demander de l'aide, parce que c'est comme si c'était quelque chose d'exceptionnel qu'on demande. Or les hommes ne bougeront pas, il faut que les femmes soient plus incisives dans ce qu'elles disent, il faut qu'elles persistent. Même quand elles ne veulent pas être écoutées, mais qu'elles persistent. Mais quand elles renoncent, et c'est ça qui arrange les hommes, souvent qui écoutent sans même répondre, lui, son mari daigne répondre en lui disant courage, en l'encourageant, mais ça lui coûte rien.
Macalé,
c'est quelques mots.
Macalé, excusez-moi de vous poser cette question. Vous avez peur de la réaction si vous preniez cette décision, justement, ou vous dites ça se passera bien? Qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai peur de la réaction.
Vous avez peur.
Parce que je ne sais pas ce qui va venir.
Mmh. Oui, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour beaucoup d'hommes, pour ne pas dire la quasi-totalité des hommes, surtout sous nos cieux en Afrique, dès l'instant qu'ils ont fait la démarche d'aller demander la main d'une femme, c'est comme s'ils avaient fait les 99% de ce qu'ils avaient à faire dans leur vie. Mmh. Et ça, il faut que ça change. Et les seules personnes qui peuvent changer ça, ce sont les femmes. Mmh.
Dire avant, est-ce que j'ai besoin de ça aussi pour être heureuse? Je pense que quand on s'est marié, c'était pour que tu sois heureux, que je sois heureuse, et ça fait partie du contrat.
Et faire comprendre aux hommes que le meilleur moyen aussi pour qu'ils soient heureux, eux, c'est pas d'avoir une domestique en service continu en permanence, qu'ils veulent en plus avoir toute fraîche et disponible le soir à leur côté, mais qu'il faut qu'ils s'impliquent autrement. La vie d'aujourd'hui impose ça. Et que le fait de s'impliquer davantage dans le fonctionnement de la maison est une manière de contribuer non seulement à l'épanouissement, au bien-être de leur femme, mais à leur propre bien-être. Parce qu'une femme qui n'est pas épanouie, je suis désolé, elle ne peut pas être disponible pour son conjoint. Donc on attend d'elle qu'elle soit à la fois 4 femmes ou 5 femmes, 5 personnes à la fois dans la maison, y compris même qu'elle soit le père aussi des enfants, parce que le mari déserte complètement, mais en plus qu'elle soit l'amante, la femme, parfumée, bien fraîche, disponible, aimante, désirante, le soir. Ce n'est pas possible. Mmh. Ça veut dire donc que le maintien de ces hommes, le fait qu'ils continuent à s'arc-bouter à des pratiques qui remontent d'un siècle, des pratiques désuètes, ne contribue qu'à leur insatisfaction, insatisfaction qu'ils pensent pouvoir régler maintenant en allant voir ailleurs, pensant que ailleurs l'herbe est plus verte. Mmh. Ils se mettent dans la polygamie pour réaliser, une fois dans cette polygamie, que le problème demeure. Ils vont prendre une troisième femme et ces hommes ne sont jamais satisfaits.
C'est une fuite en avant.
Et ils ne se posent pas la question.
C'est une fuite en avant.
Il faut que les femmes commencent à parler. Et à montrer aux hommes qu'elles n'ont pas plus besoin de lui que lui n'a besoin d'elles.
Et que le vrai pouvoir, certainement, d'un époux, c'est de rendre sa femme heureuse. En tout cas, Macalé, on vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Double remerciement, puisque vous avez également aidé à la programmation musicale de Priorité Santé. Votre choix, c'est ce titre de Djadju. On comprend le message derrière. Le titre, c'est « Lionne ». Des fois, on a vraiment envie de rugir. C'est dans Priorité Santé.
Lionne, un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Jamais son dernier mot. Non, 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 non. Et tu peux lire
tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer.
Djadjou dans Priorité Santé. Les auditeurs ne le savent pas, mais derrière, on entendait Makalé qui chantait. Elle a bien raison de reprendre les paroles de cette chanson. Mamadou Mbodj, on arrive à la toute conclusion de cette émission. Apprendre à s'écouter, comprendre ce qui se passe. Peut-être un dernier commentaire par rapport à ces témoignages d'auditrices. On a eu vraiment des situations très, très variées, de très beaux témoignages de femmes.
Absolument. De très beaux témoignages de femmes. Et j'espère que ces témoignages seront entendus par d'autres femmes et que ça pourra provoquer un déclic. Parce que ce qu'on constate à travers tout ça, c'est que l'évolution des responsabilités et de l'engagement des femmes et surtout leur implication dans presque tous les secteurs d'activité de la vie ne sont pas suivis par un gain d'émancipation vis-à-vis des traditions, vis-à-vis des familles, vis-à-vis des conjoints. Mmh. Et c'est ça qu'il faudrait changer.
Toujours plus, mais on leur demande aussi toujours plus.
Toujours plus. Aujourd'hui, hier, gardienne des traditions, aujourd'hui, gardienne des modernités. Hein, je me souviens d'une patiente encore qui se plaignait du silence du mari et de son ennui à elle. Et il lui a dit, mais c'est toi la femme, c'est à toi d'égayer le couple.
Mamadou Mbodj, on a bien compris ce message qui est passé avec nos auditrices. Question de femmes, on vous remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous et appel renouvelé aux auditrices pour ne pas hésiter à réagir sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, question de femmes consacrée aux urgences au féminin. Pour quel motif, quel cas faut-il consulter sans attendre? Douleur aiguë, brûlure, accident domestique. Reconnaître aussi les signes en cas d'alerte cardiaque. Évidemment, si vous avez des questions, des thèmes à nous proposer, n'hésitez pas, on sera à votre écoute le vendredi comme tous les jours de la semaine dans Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassène, Juliette Brault, Didier Bleu avec nous en studio, Moussa Thiam dans les studios RFI Dakar. On se dit à lundi et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance IARD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Wave Tower. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz.